Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Gagner de l'argent, se faire une place, monter une boîte. Voilà les mots qui reviennent sans arrêt dans la bouche des trois accusés. Que ce soit Valérie Subra, ou bien Jean-Rémy Sarro, ou encore Laurent Attab. Le trio infernal n'est en fait qu'un pâle groupe de meurtriers sans envergure.
Bonjour, une fille et deux garçons. Trois jeunes gens âgés de 18 à 21 ans qui rêvaient de fortune et d'Amérique. À la Noël 1984, la France va découvrir l'épopée meurtrière de ce trio, Valérie Subra, Laurent Attab et Jean-Rémy Sarro. Ils venaient de tuer coup sur coup un avocat parisien et un commerçant du Sentier, deux célibataires torturés à mort pour qu'ils donnent leur argent et leurs bijoux. Ces trois jeunes gens vont être surnommés les diaboliques, car c'est dans un piège qu'ils ont attiré leur victime. Il a suffi pour cela que la très jolie et très charmeuse Valérie séduise ces hommes qui lui ont ouvert leurs portes. Elle a servi d'appât. Les garçons se sont ensuite chargés de la basse besogne, un trio qui n'en était qu'au début d'une série noire. D'autres cibles étaient inscrites sur leur sinistre carnet de chasse. Qui sont donc ces bourreaux d'un soir, dépourvus de scrupules, qu'ont-ils raconté aux enquêteurs? Comment une jeune femme insouciante et souriante est-elle devenue du jour au lendemain une figure du crime?
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Samedi 8 décembre 1984, vers 18h45, Françoise Nicoulot, secrétaire de l'avocat parisien Gérard Lelédier, débarque au cabinet, en rez-de-chaussée sur cour, au numéro 97 de la rue de Prony, dans le 17e arrondissement de la capitale. Elle est accompagnée d'une amie, Patricia Montblus. Les deux femmes ont un mauvais pressentiment. Le matin, Gérard, divorcé, a oublié d'aller chercher son fils au lycée. Il ne répond plus au téléphone et il n'a pas récupéré son courrier devant la porte de son cabinet, qui lui sert aussi d'appartement. La secrétaire ouvre avec le double des clés. Les deux femmes découvrent un logement sans dessus-dessous, des tiroirs ouverts, une chaise renversée. Dans le salon, la radio est allumée. Il y a là le corps de Gérard Lelédier. 50 ans, il gît sur le dos, cheville et poignet liés. Une éponge dans la bouche, le visage est ensanglanté et la perruque que portait la victime est tombée. Les légistes notent une longue liste de sévices. L'homme a reçu des coups au ventre, au visage, frappé au crâne avec un morceau de bois qui s'est brisé, torturé avant d'être poignardé. Le ou les meurtriers cherchaient de l'argent. Ils sont repartis avec 1200 francs. Aucun dossier du cabinet n'a été volé. Hormis deux ou trois affaires de stup, l'avocat ne traitait pas d'affaires sensibles, le plus souvent des divorces ou des infractions routières. La brigade criminelle n'exclut pas le crime crapuleux, mais elle n'écarte pas non plus une agression à caractère privé ou même un sordide jeu sexuel. Ces derniers temps, des homosexuels ont été agressés et ligotés, même si une ancienne collaboratrice de Maître Lelédier témoigne que ce dernier penchait plutôt pour les jeunes et jolies femmes. Elle en voyait passer beaucoup au cabinet. Il les présentait comme des hôtesses de l'air ou des stagiaires. Gérard Lelédier avait sa table au jardin de la Boétie, dans le quartier des Champs-Élysées, un établissement chic et feutré, réputé pour sa clientèle de couples libertins, de maris et de femmes infidèles. Le jour de sa mort, vers 20h45, Lelédier a parlé à sa mère au téléphone. Il lui a dit qu'il attendait une amie pour l'emmener dîner au jardin de la Boétie, mais la table de l'avocat est restée vide. Lundi 17 décembre, 9 jours après le meurtre de l'avocat, la police est appelée à une adresse toute proche, au numéro 12 de la rue Marguerite. Le corps d'un commerçant du Sentier, Laurent Zarad, 29 ans, a été découvert dans le bureau, chambre d'amis de son appartement. C'est son frère, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, qui l'a retrouvé dans cette pièce fermée à double tour. Laurent Zarad, habillé d'un pantalon et d'un polo blanc, repose sur le sol, la tête enfouie dans un peignoir rose, ensanglanté. Autour de son cou, une écharpe bleue qui a cédé alors qu'on tirait dessus. Les pieds et les mains sont attachés avec les cordons des rideaux. Laurent Zarad a été frappé, achevé à l'aide d'un coupe-papier retrouvé sur place qui lui a perforé le thorax et un poumon. On lui a volé sa chaîne en or, sa bague aux trois anneaux Cartier et sa montre de luxe. Comme l'avocat Lelédier, le commerçant Zarad aimait le monde de la nuit et les jolies femmes, c'était un habitué de l'Apocalypse, la boîte à la mode des Champs-Élysées. Le soir de sa mort, il devait dîner avec son frère et des amis, mais il a fait savoir qu'il avait rendez-vous avec une fille. Le frère et la sœur se renseignent dans le Sentier. Ces derniers temps, Laurent a été vu avec la vendeuse d'un magasin du quartier, Valérie Subra, 18 ans. Mais un commerçant les rassure. La petite, C'est une fille bien. Elle est toute jeune. Jamais elle n'aurait fait de mal à Laurent. La jeune vendeuse va se retrouver la première en garde à vue. Jeudi 20 décembre 1984, seulement trois jours après le deuxième meurtre du 17e arrondissement, les policiers de la brigade criminelle se présentent au numéro 49 de la rue du Caire, dans le Sentier, une boutique de vêtements à l'enseigne Jeep. Ils interpellent la vendeuse, Valérie Subra, 18 ans, jeune femme brune et souriante. Son nom et numéro de téléphone figurent dans les agendas des deux victimes. Valérie Subra ne montre aucune surprise. On remarque qu'elle porte une chaîne en or autour du cou, ainsi qu'une bague Cartier à trois anneaux à son doigt. Des bijoux identiques à ceux volés chez Laurent Zarade. La vendeuse est conduite à l'appartement de sa mère où elle vit. On y retrouve une carte de visite de Gérard Lelédier, la première victime. Elle est placée en garde à vue, dément pendant quelques heures son implication dans les deux crimes, puis demande à voir le chef d'enquête, le commissaire Christian Flèche. Elle lui confie qu'elle n'a pas tué, mais a effectivement servi de rabatteuse dans cette histoire. C'est elle qui a choisi les victimes pour le compte de deux garçons, juste un peu plus âgés qu'elle. Les crimes, c'était pour l'argent. En garde à vue, Valérie Subra livre les noms des deux garçons dont le quartier général est le bar Le Martins, proche du bois de Boulogne. Le premier s'appelle Laurent Attab, 19 ans, son petit ami depuis 3 mois. Elle est amoureuse, bien décidée à faire sa vie avec lui. Attab travaille avec son père dans une société qui fabrique des sweatshirts. C'est un enfant gâté qui a toujours eu tout ce qu'il voulait jusqu'à ce que les finances familiales soient au plus bas. Il s'est alors mis à chercher de l'argent partout et à imaginer des coups. Il voulait amasser 10 millions de francs pour s'installer aux États-Unis. Le deuxième homme, c'est Jean-Rémy Sarraud, 21 ans, lui aussi inconnu de la police, apprenti pâtissier, qui n'a jamais terminé ses études, une scolarité en dents de scie, en rupture avec sa famille. Laurent Attab l'avait pris sous son aile. Valérie Subra explique que c'est Attab qui a eu l'idée de la transformer en appât pour séduire des hommes riches. Elle n'avait qu'à se faire inviter chez eux, les deux garçons se chargeaient de les dépouiller. Selon elle, Attab voyait les choses en grand. Il souhaitait que d'autres filles servent d'appât. Il en avait contacté quelques-unes, mais sans succès. Le 30 novembre, 8 jours avant le premier crime, Sandris, 18 ans, a cependant accepté d'accompagner Valérie chez René Besseau, 38 ans, un industriel. Mais Sandris a pris peur. Elle s'est enfuie. Attab et Sarraud attendaient au coin de la rue. Raté. On se fera René une autre fois, se serait exclamé Attab. Le responsable des jardins de la Boétie était également sur la liste des cibles. Valérie Subra, mou, juvénile et voix calme, raconte les crimes avec une naïveté déconcertante à son avocat, maître Jean-Louis Pelletier. Elle a demandé combien de temps tout cela allait durer. Longtemps, lui a-t-il répondu. En fin de garde à vue, elle a indiqué qu'elle avait tout dit et qu'elle voulait rentrer chez elle. Il fallait qu'elle passe Noël en famille. Laurent Attab et Jean-Rémy Sarraud sont en garde à vue. Quels récits vont-ils faire des crimes ?
On est dans une spirale infernale et on n'a pas eu avant ni l'un, ni les uns, ni les autres d'avoir le courage de dire stop. Donc on a été jusque là et donc je suis persuadé qu'il n'y a que la police qui puisse arrêter ça.
Jeudi 20 décembre 1984, Jean-Rémy Sarraud et Laurent Attab sont en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. Sarraud, garçon fragile et apeuré, avoue les crimes sans hésitation. Pendant 6 heures, il en livre les moindres détails. Valérie Subra était bien l'appât, elle avait rencontré l'avocat Gérard Lelédier, qui l'appelait « mon poussin ». Le vendredi 7 décembre, vers 21h, Valérie s'est rendue chez l'avocat. Elle avait le code de l'immeuble. Les deux garçons l'ont suivie. Après quelques minutes, elle est ressortie de l'appartement et leur a lancé « Il est seul, c'est ok ». Les deux hommes, cagoulés et armés, ont braqué l'avocat pour que Valérie ne soit pas inquiétée. Ils l'ont également ligoté. Sarraud raconte comment Gérard Lelédier a été menacé, giflé pour qu'il avoue où il cachait son argent. On le frappe alors à coups de bûche sur le crâne. « Il a perdu sa perruque, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais scalpé. Je suis sorti de la pièce », explique Jean-Rémy Sarraud. Laurent Attab lui donne alors un couteau. Il fallait tuer la victime qui risquait de les reconnaître. Sarraud a poignardé l'avocat à la gorge et en plein cœur. À minuit, le trio a quitté l'appartement. L'argent volé, 1500 francs, a été dépensé en champagne dans une boîte de nuit. Laurent Attab n'est pas bavard. Il faut une journée de garde à vue, des perquisitions au domicile de ses parents où l'on retrouve ses baskets ensanglantées pour qu'il avoue. Il confirme le film de la mort de l'avocat Gérard Lelédier pour le commerçant Laurent Zarade. Il explique que lui et Sarro étaient armés de pistolets mais ne portaient pas de cagoule. Pendant qu'il frappait Zarade, Valérie Subra est sortie de la chambre pour regarder dans le salon des clips vidéo. Jusqu'à 3 heures du matin, les deux hommes ont essayé de faire dire à Laurent Zarade où il cachait son argent, ni coffre-fort, ni lingot. Laurent Attab a fini par achever le commerçant en le poignardant avec un coupe-papier. Un trio qui, 4 ans plus tard, effectivement, va comparaître aux assises. Vendredi 8 janvier 1988, Valérie Subra, 21 ans, cheveux tirés, pull noir, visage enfantin et yeux embués de larmes. Laurent Attab, 22 ans, blouson andin, regard fermé et Jean-Rémy Sarro, chemise à carreaux, petites lunettes, sont devant la cour d'assises de Paris. Seule Valérie Subra attire les regards. Une semaine avant le procès, elle a fait la couverture de Paris Match. Une photo où on la voit sortir d'une piscine, t-shirt mouillé, avec ce titre « Valérie, la diabolique ». Jean-Louis Pelletier, son avocat, s'insurge contre cette présentation qui pourrait fausser l'esprit des jurés. Valérie Subra proteste, elle aussi, elle se met à sangloter. « Pourquoi vous acharnez-vous sur moi ? Tuer comme ça, pour un peu d'argent, c'est horrible et monstrueux, dit-elle. » L'avocat général annonce qu'il ne fait pas, lui, de différence entre les uns et les autres. Unis tous trois dans la préparation, unis tous trois dans l'exécution, unis dans le partage, il serait choquant qu'ils ne soient pas unis dans la condamnation, martèle le magistrat. Jean-Rémy Sarro raconte le supplice de Gérard Lelédier, qui a duré 30 minutes. « Laurent et moi, nous sommes devenus méchants, dit-il. Pour Laurent Zarade, la deuxième victime, le président de la cour demande s'il avait été décidé de le tuer. » Oui, vont répondre Valérie Subra et Jean-Rémy Sarro. L'avocat de la famille Zarade, François Spiner, compare le trio à Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames du 18e. « C'est facile de dire « je n'ai pas de sang sur les mains, mais vous avez du sang sur la conscience », dit-il. L'avocat général s'adresse à Valérie Subra. « Je sais qui vous êtes, une poule perverse. Vous avez l'audace, l'aplomb, l'intelligence. Je vous demande pardon. » Pardon, pardon, répond la jeune femme. Après 3 heures de délibéré, les jurés rendent un verdict identique pour les accusés, perpétuité pour tous, 20 ans de sûreté pour Attab et Sarro, 16 ans pour Subra. Les condamnés vont donc purger leur peine, puis vont tenter de se faire oublier. 2001, Valérie Subra est la première à être libérée. Elle sort discrètement de la prison pour femmes de Rennes. Elle va quitter la France, se marier et avoir 2 enfants. Libérée 2 ans plus tard, Laurent Attab décède en 2020. Jean-Rémy Sarro meurt, lui, en 2022. Lors du procès, Laurent Attab, qui avait eu l'idée de cette expédition meurtrière, se voyait reprocher de ne pas avoir formulé de regrets. Il avait alors répondu « Je peux pas exprimer tous les regrets que j'ai, j'arrive à faire des cauchemars. »
On est dans une spirale infernale et on n'a pas eu avant ni l'un, ni les uns, ni les autres d'avoir le courage de dire stop. Donc on a été jusque là et donc je suis persuadé qu'il n'y a que la police qui puisse arrêter ça.
Jean-Alphonse Richard sur RTL
et l'heure du crime.